Radio 1, premier sur l'info, le journal.
Avec MCM.
Lundi 16 février, le journal de la mi-journée présenté par Antoine Samoyau. Bonjour.
Bonjour Moreto, bonjour à tous. Le Conseil d'État qui relance l'affaire des emplois cabinets. Cette nuit à Paris, la juridiction administrative a débloqué le volet financier de l'affaire des emplois fictifs, jugé en juillet dernier sur le plan pénal. Toutes nos explications sur ce dossier dans ce journal. Il n'y a plus de grève à l'hôpital de Taonnet. Le syndicat des praticiens hospitaliers a voté ce matin la suspension du mouvement. Nous recevons ce midi son représentant Marc Lévy qui viendra nous expliquer les raisons de ce mouvement et de cette suspension. Enfin, la 11e édition du Tahiti Fitness Challenge, ça démarre le 28 février prochain. Du sport mais aussi une bonne œuvre puisque les bénéfices de cet événement sont reversés pour servir la lutte contre le cancer. A tout de suite.
Et on démarre avec l'actualité judiciaire du jour et l'affaire des emplois cabinets qui est relancée depuis cette nuit.
L'affaire des emplois cabinets, c'est le volet financier des fameux emplois fictifs des présidences Floss. L'affaire a été définitivement jugée sur le plan pénal, mais elle est toujours en cours sur le plan financier. C'est la Chambre territoriale des comptes de la Polynésie française qui avait ouvert la procédure des emplois cabinets en 2005 pour permettre au pays de recouvrer les centaines de millions de francs détournés dans l'affaire des emplois fictifs, des dépenses engagées par la présidence du pays pour indemniser des élus municipaux ou des syndicalistes. 14 dossiers sont visés par la procédure. L'ancien président Gaston Floss est concerné, mais également l'actuel président Édouard Fritsch ou encore le ministre René Temeraro ou le maire de Papeete Michel Buillard. Des syndicalistes également Jean-Marie Antou, Cyril Le Gaïc ou Heifara Parker et les élus Thomas Moutam ou encore Marcelin Lisan. Tous sont visés, je cite, à raison des dépenses et rémunérations qu'ils ont effectuées ou dont ils ont bénéficié entre 1996 et 2004.
Mais cette procédure financière était bloquée jusqu'à il y a encore quelques heures.
Exactement. Depuis 2012, la procédure est en attente devant la Cour des comptes. En attente de quoi ? D'un recours déposé par Gaston Floss et la vingtaine d'autres personnes visées par la procédure à l'encontre de 14 délibérations votées le 4 novembre 2008 par l'Assemblée. Des délibérations qui reconnaissaient l'absence d'utilité publique des dépenses engagées par le pays entre 1996 et 2004 pour rémunérer les emplois cabinets. Or, depuis cette nuit, le Conseil d'État a rejeté cette requête de Gaston Floss. C'est de ses comparses. Les regards se tournent donc maintenant vers la Cour des comptes et l'addition pourrait être très salée pour les mis en cause dans les prochains mois.
L'autre grosse actualité du jour, c'est la suspension du mouvement de grève à l'hôpital depuis ce matin.
Le mouvement de protestation avait débuté jeudi contre la nouvelle baisse de 600 millions de francs de la dotation annuelle de l'hôpital pour 2015. Mais dès jeudi matin, 5 des 6 syndicats en grève avaient signé un protocole d'accord avec le gouvernement. Seul le syndicat des praticiens hospitaliers a maintenu le mouvement. Oui, mais voilà, ce matin, le dernier syndicat a voté la suspension de ce mouvement de grève. Alors, je reçois ce midi le président du syndicat des praticiens, le docteur Marc Lévy. Docteur, bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi votre mouvement a été suspendu ce matin?
En fait, ce mouvement n'était pas un mouvement social pour avoir des avantages de salaire ou des avantages sociaux, tout simplement. C'était un mouvement social pour la défense des moyens de soigner les malades et notamment l'achat d'équipements à l'hôpital. Donc on a utilisé tous les moyens à notre disposition, information, discussion. Malgré ça, il n'y avait pas de solution concrète. Donc nous sommes allés jusqu'au mouvement social avec les autres organisations. Dépôt d'un préavis de grève, ça n'a toujours pas suffi pour avoir des réponses satisfaisantes. Nous sommes allés jusqu'à la grève, nous avons fait la grève plusieurs jours. Maintenant, on ne pouvait pas continuer infiniment avec des revendications qui n'apportaient rien socialement au PH. Donc on espère qu'on se sera fait entendre comme ça.
Alors suspendu ne veut pas dire abandonné, ce qui veut dire que vous gardez quand même vos revendications.
De toute façon, de manière très concrète, nous avons une liste de matériel dont nous avons besoin à l'hôpital, matériel pour les équipements de soins aux malades, matériel informatique, etc., matériel technique, des lits de malades aussi. Et toute cette liste, nous l'avons, elle a été préparée de longue date, de manière très précise, pour que ça soit juste ce dont nous avons besoin. Et nous veillerons à ce que ça soit appliqué en 2015 comme prévu.
Alors justement, le gouvernement a répondu à ces questions sur la modernisation de vos outils. Et vous, est-ce que vous êtes d'accord avec le plan de modernisation et des équipements triennal proposé par le gouvernement ?
En fait, le gouvernement ne propose rien de nouveau. Il est bien évident que ça fait partie du fonctionnement normal de l'hôpital de prévoir ses investissements. Donc il y a des commissions à l'intérieur de l'hôpital avec des médecins, des professionnels de santé, des administratifs. Et tous ces documents existent, sont présentés régulièrement et glissent d'une année sur l'autre, sont présentés au conseil d'administration. Donc pour nous, le gouvernement n'apporte rien de nouveau.
Le gouvernement a expliqué aussi la semaine dernière par rapport à ce mouvement que si la dotation annuelle baissait, c'est parce que les recettes de l'hôpital sont en augmentation depuis 5 ans. Du coup, est-ce que ce mouvement, est-ce qu'il est bien légitime ?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que parallèlement à la diminution de la dotation globale de fonctionnement donnée par la CPS à travers ces trois régimes, il y a eu pour compenser une augmentation des recettes de la sécurité sociale pour les malades hospitalisés qui relèvent de la sécurité sociale. Le problème, c'est qu'on arrive à la limite de l'augmentation possible, puisque actuellement les prix de sécurité sociale à la journée d'hospitalisation sont les plus élevés de France. Et en 2015, la dotation de la CPS diminuant, ça ne pourra pas être compensé par la sécurité sociale. Donc pour la première fois, entre 2014 et 2015, il y aura une baisse globale.
Mais le problème, c'est que ce qu'explique le gouvernement, c'est que si on augmente la dotation, enfin, si on laisse la dotation annuelle comme ce qu'elle était l'an dernier, on va se retrouver avec une augmentation également pour les cotisants.
Non, pas du tout, puisque les cotisants font partie des dotations concernant la CPS. La CPS diminuant depuis 2011, les cotisations sont de moins en moins impliquées dans la dotation de l'hôpital, puisque la dotation de l'hôpital pour la part de la CPS diminue. Donc les cotisants ne sont en aucun cas concernés. Pour les cotisants, ils ont la même cotisation, enfin, il y a la même charge entre 2008 et 2014. Donc ça veut dire que pour les cotisants, ils ne payent pas plus pour l'hôpital que quand on était à l'hôpital de Mamao. C'est la sécurité sociale qui compense.
Ce que je veux dire, c'est que cette dotation de 600 millions de francs, si on la remet en place, elle pèsera de toute façon sur le budget du pays et donc elle reviendra sur les contribuables.
Non, puisqu'on se base sur 2014. Donc pour 2015, on ne demandait pas d'argent en plus, on demandait simplement la reconduction de 2014, ce qui était déjà un effort considérable, puisqu'on sait qu'il y a eu une évolution naturelle des prix de l'ordre de 1,5%, ce qui aurait fait à peu près 300 millions, et qu'en plus on a dû subir les deux épidémies de Zika et de Chikungunya, ce qui coûte à peu près 300 millions. Donc l'hôpital est vraiment dans une dynamique de meilleure gestion, d'économie. On ne peut pas demander l'impossible non plus, et il faut quand même soigner les malades.
La suite pour l'instant, c'est donc vous allez être vigilant, comme vous le disiez, à la mise en place des promesses faites par le gouvernement et par la direction de l'hôpital.
De toute façon, nous n'avons pas le choix, puisqu'il y a des recommandations nationales et internationales qui obligent les médecins à mettre en place un certain nombre de moyens selon les pathologies. Donc si nous n'avons pas les moyens de soigner les malades tels que c'est recommandé, nous serons obligés de proposer aux malades des évacuations sanitaires. On ne peut pas prendre le risque de soigner les malades sans en avoir les moyens à Tahiti.
Merci beaucoup, docteur Lévy. On va passer à la suite de ce journal.
On marque une pause pour commencer, puis on revient pour parler sport, entre autres justice et mariage.
Radio 1, premier sur l'info.
Retour au journal, Antoine, et puis ces deux circonstances. Après ce week-end de Saint-Valentin, un regard sur les statistiques des mariages en Polynésie.
Fête des amoureux oblige, Radio 1 s'est penché sur les statistiques de l'amour aux Fénois. Une étude publiée par l'INSEE la semaine dernière révèle que depuis la fin de la guerre, les Français ne s'étaient jamais aussi peu mariés qu'en 2013. Eh bien, en Polynésie, c'est l'inverse. Le nombre de couples à se marier est en augmentation ces dernières années. Proportionnellement, il devance de loin celui des métropolitains. Écoutez le détail de ces chiffres avec Tamara Sentis.
Selon les chiffres de l'Institut de la Statistique, le taux de nuptialité, c'est-à-dire le rapport sur une année entre le nombre de mariages et le nombre d'habitants, était de 5,5 en 2013, soit 1474 unions célébrées. Au commencement de la collecte de données sur le mariage en 1984, ce taux était de 7,3 mariages pour 1000 habitants, puis il n'a cessé de chuter d'année en année pour atteindre en 2001 son plus bas seuil, 4,1. Cette année-là, le nombre de cérémonies passait pour la première fois sous la barre des 1000 par an. Mais depuis cette date, on constate que le nombre de mariages repart progressivement à la hausse. En 2012, le taux de nuptialité a même atteint 6,3 pour 1000, un chiffre qui n'avait plus été observé depuis l'année 1994. Alors, jamais un tel nombre d'unions n'avait été constaté, il y en a eu 1699 exactement. Et même si les chiffres de 2013 sont légèrement inférieurs, ils continuent de confirmer cette tendance à la hausse. Autre évolution dans les mariages en Polynésie, en 2013, les mariés étaient en moyenne âgés de 7 ans de plus que ceux de 1984. Lors d'une première union, l'épouse a en moyenne 33,3 ans et son âne 36,7. Et puis, quand on compare avec l'ensemble de la France, on remarque que les Polynésiens se marient beaucoup plus souvent que la moyenne des Français, dont le taux de nuptialité est de 3,5, et qu'ils se marient en moyenne 3 ans plus vieux.
Beaucoup moins réjouissant à présent pour la direction du Palais de Justice, avec les assises qui s'ouvrent demain.
Et la première session de l'année va débuter par une complexe affaire de viol au GSMA de Maina en 2009. C'est un sergent-chef du GSMA qui comparaît demain et pour 3 jours devant les jurés. Accusé du viol de plusieurs stagiaires, le militaire avait en charge la gestion de la formation au groupement. L'affaire avait éclaté en 2009 avec un mail anonyme envoyé au commandant du GSMA. Mais l'accusé âgé de 36 ans conteste aujourd'hui formellement les faits qui lui sont reprochés et dispose d'un casier judiciaire vierge. Il est pourtant décrit comme un pervers sexuel par l'expert psychiatre qui l'a entendu pendant l'enquête. De très nombreux témoins sont attendus par la défense et l'accusation pendant ce procès dans lequel l'accusé encourt 20 ans de réclusion criminelle.
Un mot de sport à présent avec l'exploit de Mateja Ikuili en Australie.
Hier, sur le spot de Manly, près de Sydney, le surfeur tahitien a terminé deuxième de la Hurley Australian Open. Tout juste remis de sa blessure au bras droit contracté à Hawaï fin janvier, le surfeur de 19 ans a affiché un niveau digne des plus grands la semaine dernière. Il fait désormais partie des rares à avoir battu 2 fois en une seule et même compétition le triple champion du monde Mick Fanning. Il l'a évincé lors du deuxième round et de quelques dixièmes, puis à nouveau en huitième de finale sur un score beaucoup plus large. Mais Mateja Ikuili ne s'est pas arrêté là et a continué à abattre d'autres grands noms du surf. Le Canadien Jonathan Gonzalez en quart de finale, puis l'Australien Ryan Callinan, je vais y arriver, en demi-finale. Et le Tahitien a dominé la compétition jusqu'à rencontrer l'Américain Koloe Andino en finale. Ce dernier l'a battu au terme d'un duel où l'ensemble des professionnels s'accordent à dire qu'il n'a pas démérité.
Et on termine avec le Tahiti Fitness Challenge qui revient pour sa 11e édition cette année.
Les grands sportifs comme les amateurs ont rendez-vous au stade Willy Bambridge pour 4 heures de sport en plein air pour soutenir la lutte contre le cancer. L'événement sportif qui en sera à sa 11e édition le 28 février prochain séduit chaque année de plus en plus de monde. De 300 participants au lancement, il en rassemble aujourd'hui près de 2000 chaque année. À l'instar des années précédentes, différents cours de fitness seront proposés, certains intenses comme le body combat, d'autres plutôt rythmés tels que le shbam. Et pour cette édition, une nouveauté sera également proposée, le fitness pour enfants, des cours ludiques pour se dépenser dès l'âge de 6 ans. La journée est donc dédiée à tous les membres de la famille, comme l'explique Gaëlle Lochman, présidente de l'association Tahiti Fitness Challenge.
On peut venir au TFC sans avoir fait de sport de sa vie. Le challenge, il est que pour soi. On a le droit de faire les cours qu'on a envie, de s'arrêter, d'aller boire un coup. Si on commence un cours et qu'il ne nous plaît pas, et ça peut arriver, on peut aller s'asseoir et regarder des gens faire. Et il n'y a vraiment pas d'obligation de faire le challenge de A à Z en entier. Pour les participants, c'est une grosse fête qui leur permet de à la fois s'amuser et à la fois de faire une bonne action. Et du côté de l'organisation, on est resté sur ce créneau-là parce que on aime ça et parce qu'on aime faire plaisir aux gens et 2000 personnes, c'est familial.
Le prix des billets de participation s'élève à 2000 francs. Les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer qui l'année dernière avait pu recevoir un chèque d'1 million de francs grâce à l'opération. Les organisateurs espèrent faire encore mieux cette année. Et je vous rappelle que les places sont en vente dans les magasins Carrefour de Harwe Punaoya, à Radio 1 Fariote et sur notre billetterie radio1.pf ainsi qu'à l'entrée du stade le jour J.